Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Victor Hull.
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Il s'appelle Bertille et Bertille. Pour l'un, un flic bougon à moustache, c'est son nom. On dit commissaire Bertille. Pour l'autre, une beauté de la France des années 20. Jeune, intrépide et élégant aristocrate, c'est son prénom. Autant dire deux personnages qui n'avaient rien pour se rencontrer et qui vont pourtant tenter de venir à bout d'un énorme casse-tête pour le gouvernement français, se débarrasser d'une grosse boule rouge venue d'on ne sait où et qui grossit, grossit et grossit encore au grand dam du préfet et du premier ministre. Ajoutez-y quelques belles cylindrées et des dialogues ciselés et cet étrange cocktail vous donnera le nouvel album de bande dessinée signé Eric Stallner, Bertille et Bertille, l'étrange boule rouge, est paru dans la collection Grand Angle des éditions Bambou et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Eric Stallner.
Bonjour Jean-François.
Merci d'être avec nous en duplex des studios de Radio France à Lyon. Mais c'est du côté de Paris hein, et de la région parisienne que se déroule l'action de votre album. Et on entre très très vite dans le récit. Hein. Ça s'emballe vraiment dès les toutes premières pages puisque l'album commence par une scène d'arrestation dans un bar. Alors il y a le patron qui fume son clope au comptoir, des clients qui jouent aux cartes en buvant un verre. Quand soudain la police débarque, nous sommes à la page 3.
Messieurs, je vous sers quelque chose ?
On n'est pas là pour ça. Palovski, tu nous suis ?
Ah bah les cognes ! Vive Proudhon ! Vive l'anarchie !
Tu vas aller où ? T'es pas bien avec nous ?
Serrez pas trop fort, j'ai les poignets fragiles. On y va, messieurs.
Oh là, une minute. Vous ne croyez pas que vous allez partir comme ça ?
Ah oui ? La voiture est pleine, mais si tu veux, je peux te trouver une petite place dans le coffre. Ça te dit ?
Bah non. Mais il a pas payé son canon.
Pour les plaintes, c'est la préfecture de Paris. Et tu peux mettre mon nom. Bertille, commissaire Bertille. Tu fais quoi, la pro ? Tu es mou, ça n'avance pas.
Moi, je suis pas pressé.
Toi, Palovski, tu la fermes.
J'aurais pourtant des choses à raconter. Vous seriez étonné, commissaire.
Il y a bien longtemps que plus rien ne m'étonne.
Mais si je parle, je suis foutu. Ils vont me buter.
Crois-moi, si tu as des choses à dire, tu me les diras.
C'est ça. Et on me retrouvera suicidé avec deux balles dans le dos.
Qu'est-ce que tu chantes ? Tu veux dire que... C'est quoi, ça ? Freine la pro !
Mais patron !
Freine, mon Dieu !
C'est peut-être un obus qui va sauter.
T'es trop con, freine, je te dis ! La pro, tu gardes Palovski ! Valardin, avec moi ! Ce machin ne s'est pas écrasé. Il a continué sa course.
Mon Dieu ! Vous avez déjà vu un truc pareil ?
Allons, ça, on n'a jamais vu un truc pareil, Eric Stallner. Et ce truc hein, qui a jailli donc du ciel pour croiser au sens propre la route du commissaire Bertille, c'est cette étrange boule rouge dont parle le titre de votre album et qu'on peut d'ailleurs découvrir sur la couverture. Alors, c'est une boule, elle est sphérique, ses bords ne sont pas complètement réguliers. On dirait qu'il y a des sortes de flamèches blanches. Comment est-ce que vous pourriez nous la décrire, cette boule ?
C'est vrai que c'est une sphère. Après, elle a sans doute pas mal voyagé, donc peut-être qu'elle est ronde, mais bon, elle a eu des petits pets à droite et à gauche. Puis elle est toute chaude, donc elle a un peu de vapeur et de flamèches qui sortent comme ça, parce que... Il faut quand même qu'elle refroidisse. Elle a fait sans doute pas mal de chemin.
Oui, on sent effectivement de l'incandescence. Alors avant de débouler dans l'album, elle a déboulé dans votre cerveau, Eric Stallner. Où est-ce que vous êtes allé chercher une idée pareille ?
D'abord, je dois dire, c'est très très drôle ce que j'ai entendu là, les quelques pages que vous avez mis en ondes. Je trouvais ça très chouette. Je reviens aimer avoir tout l'album comme ça.
Ah ben merci alors, beaucoup. C'est
non, non, mais ça fait très très bizarre parce que quand on écrit, on entend des voix nous aussi. On a on met une voix sur chaque personnage et là, c'est assez sympa de les entendre pour de vrai. Comment ça s'est passé? J'en sais rien. J'en sais fichtre rien. J'avais envie de cette rencontre improbable entre deux personnages et un phénomène.
Alors, un phénomène, comme justement, ça, un phénomène. Alors, je ne sais pas trop comment le décrire, ce phénomène, parce que non seulement cette boule arrive d'on ne sait où, du ciel, probablement. Non seulement elle est rouge, elle est incandescente, comme vous le disiez, mais surtout elle va grossir et encore grossir jusqu'à menacer la vie de l'humanité tout entière. Cette boule-là, Eric Stallner, c'est quand même une métaphore de quelque chose. Vous avez voulu exprimer quelque chose à travers ce phénomène.
Certainement. Faut-il l'expliquer? Je ne sais pas, peut-être.
Mais vous le savez vous-même,
oui, bien
ou pas
sûr. Je sais en partie parce que, en fait, je me suis laissé très, très libre par rapport à ça. Il y a plusieurs vérités, je pense. Ça peut être la bêtise humaine qui enfle comme ça, qui enfle et qui prend des proportions incroyables. C'est aussi le crapaud qui veut se faire aussi gros que le bœuf. Donc c'est un petit peu ça, c'est toute la bêtise humaine comme ça, qui nous envahit. Et c'est l'étrangeté de cette chose-là que personne ne comprend et que peut-être il ne faut pas comprendre, qu'il faut prendre comme ça, qu'il faut accepter, comme on doit accepter la différence, comme on doit accepter l'autre, sans parfois le comprendre. C'est bien sûr, c'est une métaphore, mais je pense que chacun peut se faire aussi son histoire.
Mmh. Oui, et d'ailleurs, c'est vrai que l'album, de ce point de vue-là, reste aussi très, très ouvert, hein, pour le coup, Eric Stallner. Donc l'enjeu, en tout cas pour les autorités de cette France des années 20, c'est de se débarrasser du problème. En plus, cette boule, elle résiste aux canons et aux explosifs en tout genre, et petit à petit, là, face au danger, face à la peur, eh bien, on se rend compte finalement à qui on a vraiment affaire, quoi, qui on a vraiment dans le ventre, et puis quels sont ceux qui n'ont pas grand-chose dans le pantalon, si je puis m'exprimer ainsi.
Oui, certes, mais c'est un petit peu comme ça pour tout. Et c'est ça, mais c'est aussi la réaction de ces deux personnages principaux, parce que vraiment, je me suis centré sur eux, et j'ai l'impression qu'ils sont un peu tout seuls contre le monde entier. Et qui regardent ça et qui ne comprennent pas ce qui est autour d'eux. Le commissaire, il a vécu 14-18.
Oui, alors ça, c'est très important, parce qu'on sent effectivement l'impact de la Première Guerre mondiale, qui est encore très, très, très récente, hein, dans les têtes, dans le comportement, dans les attitudes. Il y a un personnage, d'ailleurs, de gueule cassée, hein, que l'on croise dans l'album. Ça participe de la tension dramatique que vous avez voulu installer.
Oui, certainement. C'est-à-dire, je pense que ces personnages avaient vraiment besoin de savoir d'où ils venaient, parce que s'ils sont là à ce moment précis, ce n'est pas pour rien. Et donc, il fallait qu'ils aient une histoire, quelque chose qui les a... Ils ont un traumatisme l'un et l'autre, pas le même, mais lié à la même chose, à cette stupidité de ces 4 ans de folie humaine.
Pourquoi, justement, vous avez voulu situer votre récit dans ces années 20?
Je crois que j'ai quelque chose avec 14-18. En fait, ce qui se passe, c'est que ma grand-mère avait deux frères aînés qui étaient officiers, qui sont morts en 1916. C'est mon côté maternel. Et mon côté paternel, mon arrière-grand-père était dans l'armée allemande, puisqu'il est alsacien. Et donc 14-18, pour moi, plus que 39-45, ça représente cette espèce de conflit presque familial. Puis surtout tellement idiot, cette boucherie sans nom, enfin... Donc je pense que je suis plus marqué, peut-être parce que ma grand-mère m'a raconté tellement d'histoires sur son enfance, sur tout ça, enfin sur comment ils ont vécu après le décès donc de ses deux frères aînés. Donc je pense que je suis moi aussi un enfant de 14-18, bizarrement. J'ai déjà d'ailleurs fait une série, un petit peu, qui traitait un petit peu de ça.
Alors, parmi les personnages, il y a donc ce commissaire Berti. On va commencer par lui, parce que c'est parmi les deux personnages principaux, celui qu'on découvre en premier. Alors, il a le visage un peu torturé, il a un tempérament un peu bougon. On a presque l'impression que c'est un archétype de flic, quoi. On est vraiment dans les codes du polar des années 20.
Oui, j'ai voulu ça, et en même temps, pour moi, il a un côté gros ours. C'est-à-dire, c'est un peu Lino Ventura dans certains films, et un côté comme ça, bougon, près du coup de poing, c'est assez facile. Et c'est-à-dire très musculeux, pas un peu court sur pattes, mais une espèce de taureau comme ça, donc qui se met en colère assez rapidement et qui, au fond, a beaucoup de générosité et un cœur assez, assez large aussi. Donc j'avais envie d'un personnage qu'on peut identifier rapidement et qu'on puisse ressentir vraiment physiquement.
Alors, avec son costume, avec sa cravate noire, avec son chapeau mou, sa petite moustache. Il a un visage assez carré, hein, également, donc avec les pommettes qui sont saillantes et qui ressortent. Et puis, il y a aussi un autre personnage, moi, que j'aime beaucoup, c'est le préfet. Alors, le préfet, il met une grosse pression sur Bertil pour qu'on résolve, évidemment, ce problème de cette grosse boule rouge. Grosse pression aussi autour du destin de cet anarchiste, hein, qui est donc arrêté au tout début de l'album, comme on l'a entendu dans l'extrait qu'on a mis en onde, qui s'appelle Palovski. Ce préfet, c'est un personnage assez drôle et en même temps complètement pathétique.
Oui, c'est vrai, mais souvent, comme ça, les seconds couteaux, j'aime bien les travailler parce qu'on a plus de liberté parfois avec eux. Ils sont dans l'histoire et en même temps, ils ont leur propre vie et ils sont un petit peu en dehors souvent. Donc, ils sont juste là pour quelques instants. Et lui, il a pris de l'importance au fur et à mesure parce que je m'y suis vraiment attaché. Il est, bien sûr, il est ce qu'il est, c'est-à-dire il est préfet, beaucoup de responsabilités. Il représente l'État et en même temps, il a beaucoup de failles. Il a beaucoup de... On sent qu'il est tourmenté aussi. Oui. Mais à la fin, on voit, il reste droit, il reste jusqu'au bout. Lorsque Paris risque d'être détruit, il est là, il a décidé d'être là.
C'est un homme de devoir.
La France, oui, c'est un homme de devoir. Ouais. Mais il a une bonne tête, il est.
Oui, alors justement,
aussi,
son visage.
Il se met en colère facilement.
Alors justement, son visage, c'est intéressant parce que son visage, Eric Stelner, c'est vraiment un visage extrêmement expressif, quoi. Il s'anime énormément au gré de ses inquiétudes, de ses colères, de son agacement, de sa peur aussi. Alors si l'album était en couleur, je dirais qu'il passe vraiment par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Comment est-ce qu'on rend un visage comme celui du préfet aussi expressif, Eric Stelner ?
Alors déjà, je suis plus réaliste habituellement. Là, j'avais envie de l'être moins pour être dans la légèreté. Donc j'avais envie d'un style pas réaliste. En tous les cas,
on va dire
moins
semi-réaliste
que d'habitude.
Semi-réaliste avec une forte dose d'expressivité.
Voilà, donc on poussait vraiment les expressions, être plus dans la drôlerie, dans l'expression, pas dans la caricature, mais l'approcher quand même parfois à certains moments. Donc sur certains personnages, se permettre de pousser un petit peu ce que j'ai fait aussi sur le docteur Malfoy, qui est un autre personnage important de l'histoire.
Oui.
Donc sur ces deux personnages, je me suis permis quand même plein de liberté. Et ça, c'était très, très, très agréable.
Avec
et
souvent,
ça permettait de faire passer beaucoup de choses.
Oui, avec souvent, effectivement, du côté de la bouche, hein, des rictus, vous insistez beaucoup sur la bouche, sur les lèvres, sur les dents. Aussi, les petits yeux aussi, qui parfois rétrécissent, des petits yeux porcins, les gros nez, les sourcils. On ne sait pas du tout de la caricature, et pourtant, de temps en temps, on se dit que ça s'en rapproche un peu.
Il fallait que ce soit vivant, il fallait que ce soit très expressif. De toute façon, dès le départ, on a cette boule rouge. Il faut rentrer dedans, il faut y croire. Pour y croire, il faut aussi que tout autour soit un peu excessif. Donc, tout est un petit peu excessif, mais en même temps... Ça n'empêche pas que derrière, il y a de la profondeur et que je dis des choses, il me semble, un peu importantes. Mais j'avais envie d'être comme ça dans l'excès sur tous ces personnages.
Vous m'en direz des nouvelles ? Sur RFI.
MDN avec Eric Stelner pour son album de BD Bertille et Bertille, l'étrange boule noire. Alors on a parlé du commissaire Bertille, l'autre Bertille est une femme très belle, une aristocrate intrépide, hein, ce qui ne l'empêche pas d'être très élégante avec son chapeau cloche, avec une plume noire, elle a un fort caractère, hein, elle fait ce qu'elle veut. Elle ne s'en laisse pas compter, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle roule aussi dans de superbes voitures. C'est quoi, c'est Panhard et Levassor et MG, c'est ça, Eric Stelner ?
J'en sais plus rien.
Ah bon ?
C'est une bonne question.
Vous vous êtes beaucoup documenté quand même, parce que là, pour
oui,
le coup,
mais...
on est quand même dans le réalisme en ce qui concerne les véhicules.
Oui, mais moi, sur 15 jours, je peux tout connaître. Et puis 15 jours après, j'oublie tout. Je suis très bon pour le bachotage. Mais alors après, non, je ne sais plus du tout les voitures que j'ai faites. Je me suis bien amusé sur le moment.
Hein, oui.
J'ai cherché, j'avais une grosse, grosse doc.
Vous avez travaillé sur photos pour le coup, parce que dans les années 20, on a la chance d'avoir des photos.
Oui, 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 forcément, pas sur tout. J'aime bien aussi être libre tout le temps par rapport à ce que j'ai comme doc. Et je préfère dessiner les voitures des années 20 que les voitures de maintenant.
Pourquoi ?
Parce qu'elles sont plus carrées, elles sont plus souvent, elles ont une carrosserie beaucoup plus belle. Je trouve que les suppositoires qu'on a fait après, je les trouve plus élégantes souvent, surtout ces belles voitures, comme les voitures américaines jusque dans les années 50, 60, elles sont beaucoup plus belles. Mais voilà, donc j'avais envie de les dessiner. Je trouvais que c'était une chouette ambiance, une belle ambiance comme ça avec ce personnage. Et j'avais envie surtout qu'elle soit en rapport, en miroir avec l'autre Bertie.
Voilà, donc Bertie...
À la fois son complémentaire et son opposé.
Voilà, Bertie, c'est donc le nom du commissaire et c'est le prénom de cette jolie demoiselle qui répond au nom de Bertie de Chavronne des Argons. On ne peut pas dire que ce soit une fille de basse extraction, visiblement.
Non, visiblement pas, mais il fallait là aussi y aller fortement. Donc, c'est une vieille, vieille noblesse, puisque même, je le mets, que c'est du XIe siècle, enfin, le siège d'Antioche, je crois, si je me souviens bien, enfin, elle le dit quelque part.
Oui. Mais alors, donc, a priori, à part le patronyme, ils n'ont pas grand-chose en commun, ces deux personnages qui sont les héros de l'album.
Ils n'ont rien en commun, sauf l'essentiel, c'est-à-dire que ben, face à cet objet, ils vont se retrouver, ils vont trouver une espèce de connivence, une espèce d'amitié directe, comme ça. Ils vont être attachés tous les deux à cette apparition, et ils vont se sentir un peu même privilégiés, sans doute, et à part... Ils vont se rapprocher petit à petit et je trouvais que c'était vraiment très fort. Je les aime vraiment beaucoup, ces personnages, parce qu'effectivement, ils sont tellement, tellement différents. Ils n'ont rien à faire ensemble. Mais c'est ça aussi qui est important, qui est intéressant. C'est que ces personnages qui n'ont rien à faire ensemble, eh ben, en fait, ont tout à faire ensemble.
Et pourquoi les avez-vous nommés comme ça, Bertie et Bertie ?
Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, ils sont à la fois différents. Lui, c'est son nom, c'est un nom vraiment commun. Quoi. Il vient manifestement d'un milieu ouvrier ou un peu plus, ou artisan. Enfin, voilà, j'ai réfléchi à ce qu'il était. Son oncle Anselme est menuisier, mais ça, bon, c'est pas là dans cette histoire-là. Mais je sais que son oncle qui l'a élevé s'appelle Anselme, c'est un menuisier. Donc, vous voyez, c'est ce milieu-là de petit artisan. Et elle, c'est une grande famille, mais sauf qu'elle est orpheline depuis 1917, depuis la guerre.
Et donc, vous avez voulu construire des personnages un peu miroir, les mettre dos à dos, en quelque sorte.
Mm-hmm, Dos à dos, et puis face à face, et puis unis. D'une certaine manière.
Quelques mots, Eric Stallner, de la question des couleurs, parce que il a une patine incroyable. Cet album, il y a essentiellement du gris, un peu sépia, avec un peu de blanc et de noir, et puis des aplats de rouge, hein, avec des éléments de costume, comme la robe de soirée de Bertie, comme son écharpe, la boule évidemment, les voitures aussi, les véhicules qu'on évoquait brièvement à l'instant, sont souvent de couleur rouge. Pourquoi vous avez fait ces choix chromatiques-là ?
Il fallait que la boule se distingue et c'est pareil que les personnages et que ce qui se passe dans l'histoire. Il y a d'un côté tout ce qui est rouge et de l'autre côté tout ce qui est plus, pas neutre, mais gris, sépia, où les arbres comme les maisons et les voitures peuvent se ressembler, ont la même teinte. Et cette boule, elle est vraiment à part. Elle arrive comme ça dans ce monde un peu terne. Et d'ailleurs, on voit qu'à la fin, chez Bertie, c'est quand même il y a quand même pas mal de rouge. Donc lui, on sent qu'il est pris par tout ça. En fait, dès que ça les concerne, lui et elle, il y a plus de rouge autour de elle. Chez elle aussi, il y a pas mal de rouge. À la différence de chez les autres, quoi, de l'autre commissaire, du préfet et d'autres personnages. Donc cette couleur est bien spécifique. C'est tout ce qui est en rapport avec la boule, avec cette étrangeté, avec cette différence.
Et ce n'est pas n'importe quel rouge, hein, c'est un rouge un peu garance, c'est ça ?
Un peu garance, oui. Oui, oui. Oui, parce qu'un vermillon, ça aurait fait un peu too much quand même.
Oui.
Et là, j'aime bien ce rouge. J'ai essayé de jouer aussi avec les couleurs, de me faire plaisir, en fait. C'est quand même un bouquin de plaisir, enfin,
oui.
Avant tout.
Mais alors, ce choix du noir et blanc plus le rouge, si j'ose dire, je ne sais pas comment expliquer ça le plus clairement possible, ça donne justement tout de suite une atmosphère vraiment, vraiment singulière. Quel est le rendu que vous aviez en tête lorsque vous avez commencé à ancrer et à coloriser cet album ?
J'ai pas tant réfléchi que ça. Au départ, d'ailleurs, dans le premier scénario, la boule était noire. Et puis, quand elle est devenue rouge, ça a tout changé mon approche. Et à partir de là, il fallait jouer avec ça. Donc, si elle était rouge et si on voulait jouer sur ce rouge, il fallait que les autres, que le reste soit vraiment différent. Et alors, bien sûr, ça ressemble un petit peu à l'idée qu'on se fait de cette période à travers les photos, les cartes postales. Par rapport à ce rouge, il fallait qu'il y ait une couleur qui puisse s'harmoniser avec tout en étant vraiment, vraiment différente. Et que l'ensemble soit beau quand même. Que cette boule, elle soit d'autant plus belle, quoi, autour de ça. Parce que c'est ça, en fait, c'est ce que dit Bertie à Bertie, enfin, le commissaire, la jeune femme. C'est, elle est magnifique, elle est belle, quoi, c'est ça.
Oui, et c'est vrai que nous aussi, on est saisis, effectivement, par cette beauté, beauté dangereuse. Alors, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Je laisse les auditeurs et vos lecteurs le découvrir. Eric Stalner, il y a évidemment une question qu'on se pose à la fin. C'est que cette série, Bertie et Bertie, bah, c'est une série, justement. C'est pas un album unitaire. Vous n'allez pas les abandonner comme ça, vos deux héros?
C'est une question que je me pose. Parce que c'est vrai que j'ai très envie de continuer, mais beaucoup parce que je les aime et que j'ai envie de voir leur vie, de connaître un peu plus de choses sur leur vie. Faut-il donner toutes les réponses? Ça, c'est la grande question que je me pose.
En tout cas, vous ne fermez pas la porte.
Non, surtout pas, parce que... voilà. Déjà, d'ailleurs, je commence à écrire des choses. C'est la preuve que j'ai envie. Mais on n'est jamais tout seul dans cette aventure. Il y a un éditeur, il y a des lecteurs. Il faut aussi que ça corresponde à une envie des lecteurs et de l'éditeur. Moi, j'avoue que ça me plairait bien.
Eh bien, gageons qu'ils seront au rendez-vous, ces lecteurs. Merci beaucoup, Eric Stalner, d'avoir été avec nous en duplex de Radio France Lyon. Bertie et Bertie, l'étrange boule rouge, album à dévorer dans la collection Grand Angle des éditions Bambou. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives. My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning, is this entertaining? Bones, extrait de Mercury Act 2, le nouvel album du groupe américain Imagine Dragons.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, Marjorie Bertin, Amélie Beaucourt et Edmond Sadaka, bonjour à tous les trois.
Bonjour Jean-François.
Bon, apparemment, il fallait dire Mercury Acte 2. Alors, voilà, il faut le faire à la française. Bon, très bien, je l'ai noté. Allez, une petite devinette pour vous les filles, pour commencer. Ah. Devinez qui Edmond a rencontré. Alors, il ne mange pas de pain au chocolat, juste des chocolatines. Voilà, ils sont entrés par la cour des grands. Ils ont mené la vraie vie et nous ont ensuite présenté une vie de rêve.
C'est les Toulousains.
Voilà, bravo, c'est déjà un bon, voilà, c'est de la chocolatine, vous avez compris, ils sont rappeurs, donc il s'agit de...
Ah, Big Flo et Oli ?
Big Flo et Oli, absolument, Edmond, vous les avez rencontrés pour nous, ils sortent leur quatrième album.
Oui, un quatrième album qu'ils sortent après être restés silencieux pendant pas mal de temps, 2 ans sans donner de leurs nouvelles dans les médias, et 3 ans après leur dernier disque, ils vont me parler de cet album qu'ils viennent de sortir.
Alors Marjorie, vous allez nous faire vibrer au son de David Walters. David ou David, alors, pour le coup?
David.
David Walters, un chanteur et guitariste globetrotteur d'origine caribéenne et new-yorkaise. Il vit à Marseille, mais cette fois, il a mis le cap sur l'Angleterre pour enregistrer son nouvel EP qui est sorti aujourd'hui, Bow Down.
Oui, c'est un disque solaire, dansant, très swing, reggae aussi, dans lequel il rend hommage, entre autres, aux Indiens d'Amérique, et de manière plus générale, à C et à nos ancêtres, qui, selon lui, sont visibles si on sait les voir.
Mais pour commencer, art contemporain dans le Café Gourmand de VMD. Et avec vous, Amélie, on va pousser les portes du musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne pour l'exposition Globalisto, consacrée à l'art contemporain du continent africain et de ses diasporas. Une exposition qui a pour point de départ un triste constat.
Oui, oui, en faisant son inventaire, le musée réalise qu'en fait, ses collections sont composées à 92% d'artistes masculins, européens, blancs. Pour y remédier, alors, elle décide d'inviter l'artiste sud-africain Molodi, que vous connaissez peut-être parce qu'il est DJ, c'est lui qu'on vient d'entendre, et de lui donner carte blanche. Il a donc invité 19 artistes africains ou afro-descendants qui vivent dans le monde entier et qui s'expriment à travers des techniques très différentes, de points de vue très différents. Et c'est de là qu'il a créé la philosophie Globalisto.
Je réfléchissais à une manière de voir le monde autrement. L'histoire a toujours été racontée du point de vue européen, du point de vue occidental. Même lorsque vous vivez en Afrique, on vous enseigne le monde avec une approche européenne. Donc je me suis demandé à quoi ressemblait le monde vu depuis l'Afrique du Sud ou depuis le Nigeria. Comment on rassemble ces points de vue pour n'en faire plus qu'un ? C'est de là qu'est née l'idée de Globalisto. Elle vient d'un monde dépourvu de frontières. Et puisque les frontières africaines ont été dictées par le pouvoir européen, comment remettre en question ce pouvoir ?
Alors dès l'entrée de l'exposition, Amélie, on se retrouve avec accroché au-dessus de nos têtes des drapeaux qui semblent familiers, mais il est pourtant impossible de déterminer précisément à quel pays ils appartiennent.
Oui, c'est l'œuvre de l'artiste Samson Kambalou qui a pris des drapeaux existants et qui les a mélangés pour en créer de nouveaux. Une invitation donc à imaginer de nouveaux territoires de réflexion autour de l'Afrique.
Samson Kambalou, qui est un plasticien du Malawi, et on le retrouve un petit peu plus loin dans l'exposition aussi, Amélie, pour une installation complètement différente.
Ouais, il a dessiné à même le mur blanc d'une des salles de l'exposition une gigantesque fresque qui retrace son inspiration situationniste. Alors en quelques mots, Jean-François, pour le rappeler, les situationnistes sont un groupe d'artistes dont l'idée principale, c'est justement le partage de l'art. L'art appartient à tout le monde, mais peut être réapproprié aussi par tout le monde. Et donc il a pour vocation d'être partagé.
Et au centre de cette fresque, il y a un écran sur lequel on peut suivre la reconstitution du procès de Samson Kambalou. Pourquoi il a été poursuivi, cet artiste ?
Eh bien parce qu'il a été, il y a plusieurs années, étudiant à Yale, la prestigieuse université américaine, élitiste, et qu'il déniche dans les archives de l'université le livre de Gianfranco Sanguinetti, un situationniste italien, situationniste qui avait vendu son œuvre à l'université de Yale, sauf que son ouvrage, puisqu'il est situationniste, est censé appartenir à tout le monde, donc n'a pas pu être vendu à l'université. Et donc c'est dans cette philosophie que l'étudiant malawite prend des photos de tout le contenu de l'ouvrage et, pour le ramener dans le domaine public, présente ses photos à la Biennale d'Art Contemporain de Venise en 2015. Gianfranco Sanguinetti s'en rend compte et le poursuit en justice pour parodie d'œuvre.
Juste à côté, Amélie, un autre travail à partir d'archives, celui de l'artiste mozambicaine Eurydice Zaitunakala.
Oui, elle est photographe de formation et en 2019, elle est en résidence à la Villa Vassiliev, c'est un centre de recherche artistique à Paris. Le projet, c'est de travailler à partir du fond Margvaux. Qu'est-ce que c'est le fond Margvaux ? C'est une série de clichés prises par ce photographe dans le Paris Montparnasse des années 30 et de créer des narrations à partir de ces archives. Mais Eurydice se rend compte qu'il y a très peu de modèles auxquels elle peut se rattacher, elle, en tant que femme noire. Et lorsqu'elles existent, elles ne sont pas légendées.
Aïcha, c'était aussi une modèle basée à Montparnasse, très très bien connue, mais qui avait une sorte d'expérience assez mythologique, puisque personne ne pensait qu'elle parlait français d'abord. En fait, elle était née en France, était née d'une famille franco-africaine diasporique. Et le fait que cette personnage qui a été bien connue n'avait pas ni de légende, mais surtout d'une histoire dans ce fond-là, m'y préoccupait. Donc mon travail, c'était de récupérer, de réinventer, de travailler dans la transparence, dans la invisibilité, dans des absences et manques des contenus autour de ces personnages qui faisaient partie du fond et d'autres qui ne faisaient pas partie, même en étant vécu à Paris pendant ce temps de lumière, etc., etc.
Alors, de la photo, de la peinture, des installations vidéo dans cette exposition, mais aussi de la biologie.
Oui, on retrouve trois grands tableaux signés Josepha Ncham, sur lesquels on distingue de loin des formes végétales étranges, hein, comme si vous vous en souvenez, vos cours de physique, plutôt de chimie, lorsque vous observez des échantillons de matière au microscope, Jean-François.
Oui.
Et c'est précisément le but de cette installation entre géopolitique et botanique.
Et un peu cette idée de revisiter des lieux du maquis, mais du coup on sait un peu voir le maquis, les lieux de révolte au microscope. Et il y a donc des plantes du Cameroun, des épices du Cameroun, une sorte de sauce noire assez mystérieuse qui donne des pouvoirs de guérison et aussi du coup qui permet aussi d'avoir une sorte de pouvoir de lutte et de révolte. Toute l'histoire de cette pièce, c'est vraiment revisiter l'indépendance du Cameroun par le prisme du microscope et du coup de voir à travers les cellules des personnes qui communiquent entre elles. Du coup, il y a des polypores, et ce qui est intéressant pour les polypores, c'est que c'est des champignons qui poussent sur les arbres morts. Et en fait, du coup, cette question de l'indépendance du Cameroun, qui était ce pays qui a été exploité du coup par l'Europe, et du coup, il en reste quelque chose, et quelque chose qui émerge et qui refait surface. Quoi.
Et vous me disiez, Amélie, qu'il y avait une autre œuvre qui vous avait beaucoup marqué.
Oui, une installation qui nous pose la question suivante. C'est de l'anglais, Jean-François, mais vous avez la traduction en dessous. What is the proper way to display a US flag?
Quelle est la bonne manière de présenter un drapeau américain?
Exactement. Voilà. Alors, oui. Cette question, elle est imprimée en noir et blanc sur une affiche au-dessus de deux illustrations. Des drapeaux américains qui brûlent au Vietnam d'un côté et de l'autre, des drapeaux américains qui recouvrent les cercueils en bois de soldats américains. En dessous de cette affiche, il y a un cahier grand ouvert et un stylo qui nous invite, nous visiteurs, à répondre à cette question. Et ce cahier qui est posé sur un pupitre, il faut pour y accéder piétiner un drapeau américain justement qui est étalé au sol comme un tapis. Une œuvre donc hautement symbolique de l'afro-américain Dred Scott qui questionne l'impérialisme américain évidemment. Une œvre qui lui a valu de nombreuses critiques, des menaces de mort et j'en passe, mais des réponses aussi très éclairantes qu'on peut consulter puisque les cahiers utilisés précédemment dans d'autres expositions sont à disposition à côté et c'est la première fois d'ailleurs que cette œuvre sort des États-Unis.
Globalisto, exposition à découvrir jusqu'au 16 octobre au musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne. Merci beaucoup Amélie, on passe à la musique. Baby go slow. Baby love. Baby go slow. Baby go slow. C'est un chanteur passionné dont nous allons parler maintenant avec vous, Marjorie, après Nocturne, avec le violoncelliste Vincent Segal et le joueur de cora malien Balaké Sissoko. David Walters est de retour avec Bow Down.
Alors c'est un EP gorgé de soleil qu'il a enregistré en Angleterre. C'est paradoxal, il a travaillé avec un producteur anglais qui s'appelle Tom Excel à Sheffield, la ville mythique de Joe Cocker, pour un disque tonique.
Joe Cocker, oui.
Joe Cocker, oui. Yeah. Oui. Qui invite au plaisir et à la méditation, idéal pour aller à la plage et danser les soirs d'été. C'est en anglais, vous l'aurez reconnu Jean-François,
oui.
En français et en créole, une langue qui pour le coup rappelle sa grand-mère à David Walters.
C'est un lien certain avec ma grand-mère qui me parlait toujours en créole quand j'étais petit, les grandes tantes, etc. Et quand j'ai commencé à chanter, d'abord j'ai commencé à chanter avec ma grand-mère, ce fameux titre traditionnel qui s'appelle Merci Bon Dieu. Et puis j'ai gardé cette habitude, c'était le lien très intime avec ma grand-mère. Mère, le créole, j'ai toujours eu ce petit truc en me disant tiens, j'écris une chanson en créole, mamie elle va être fière, elle va être contente et puis surtout elle va pouvoir mettre son nez dans mes textes et puis ça m'est resté.
Oui, c'est plein de tendresse, hein, Marjorie.
Mais oui, David Walters, c'est quelqu'un d'extrêmement connecté avec ses ancêtres et avec le passé. Sa musique est comme un trait d'union entre les vivants et les morts, elle construit des ponts sur les rives, comme avec le mystique Yemaja. C'est une incantation marine et est-ce que vous savez qui c'est Yemaja?
Alors je l'ai lu il n'y a pas longtemps dans le livre de Leonardo Padura, l'écrivain cubain, c'est la déesse de la mer, c'est ça?
La déesse de la mer et de la maternité qui se dit en Afrique Yemoja. Alors on sait combien les océans sont importants dans l'histoire de l'humanité, de son développement et de ses voyages aussi. Ici c'est un hommage très personnel de David Walters.
Je pense que c'est un hommage à ma maman qui est partie l'an dernier. Et j'ai mis les cendres de ma maman dans l'océan parce que pour moi, en faisant ça, je me suis dit que je la retrouverais toujours, que je serais toujours avec elle, peu importe où je suis dans le monde. Si je vais prendre un bain en mer, d'un seul coup, je suis avec maman. Yemadia, c'était une déesse afro, une déesse noire, magnifique, sublime, comme ma maman. Et donc, c'est une façon pour moi d'être proche de maman partout, tout le temps, dès que c'est possible.
Pour autant, c'est pas un morceau triste.
Non, parce que David Walter, c'est quelqu'un qui relie les atmosphères, les émotions et les histoires sans s'apesantir, comme sur ce morceau « Bow Down ». Alors, les auditeurs ne le voient pas, mais Jean-François Cadet se trémousse
oui,
sur
oui, enfin,
sa
bon,
chaise.
C'est vous qui m'avez un petit peu entraîné quand même, Marjorie. En tout cas, c'est très scandé hein, aussi comme musique.
Ah bah oui, David Walters l'a imaginé comme un hommage aux Amérindiens et aux esclaves de la Nouvelle-Orléans qu'on entend avec cette trompette veloutée de Bruno Patchworks, mais pas seulement.
Oui, c'est un hommage direct à la Nouvelle-Orléans parce que j'ai fait un album, j'ai réalisé et produit un album là-bas il y a 3 ans qui s'appelle « Nola is Calling ». Et j'ai toujours ce souvenir, c'était tellement fort de travailler avec ces musiciens, c'est encore une autre ambiance. Et il y a une tradition là-bas qui s'appelle le Mardi Gras Indians, qui est un carnaval de rue, où les chanteurs comme ça s'affrontent verbalement. Hein. Et c'est un peu l'ancêtre du hip-hop, et j'ai toujours cette expérience avec moi.
Car pour David Walters, qui dit musique dit métissage, rencontre humaine, plaisir de jouer ensemble et aussi, ça va bien avec l'été, une volonté de lâcher prise. Et on en a tous besoin et lui, il l'exprime sur « no one », qui veut dire en anglais, Jean-François ?
Personne.
Et ben voilà, personne évidemment, c'est une indication, un conseil à se faire confiance avant tout pour avancer sereinement et à ne suivre que son instinct. Allez, y'a qui parle, se contenne tout mauvais. Allez, y'a qui parle.
Le nouvel EP de David Walters qui est donc sorti aujourd'hui. Merci Marjorie.
Première partie de 9-9-5. Il y a 10 ans, je me fais vieux. Au lycée, je disais à tout le monde que je connaissais Nekfeu. Force est le destin, on n'est pas star, on le devient. Dans les festivals, je me balade comme au musée Grévin. Je voulais être dans section d'assaut. Des milliers de personnes me regardent, mais je me rends pas compte, je suis dans Truman Show. Ingé son, mais l'autotune, si jamais il y a fausse note, ils m'aimeront quand je serai mort, donc je suis dans Pop Smoke. Comme un rappeur, je suis dans Twitter, entêté. Comme un rappeur, je finirai seul, entêté. Crois pas ce qu'on te dit, c'est pas facile la musique. Je connais les concerts où il y a plus de monde sur scène que dans le public.
La musique, toujours avec le retour d'un duo de rappeurs très célèbres en France, Edmond et son frère. Ils sont toulousains. Big Flo et Oli reviennent avec un nouveau disque, c'est leur quatrième, après un silence médiatique qui aura quand même duré 2 ans.
2 ans, oui, c'est très long dans le monde du rap. 2 ans, un vrai silence médiatique. Et aujourd'hui, donc, c'est ce disque, Les Autres, c'est nous, les deux frères, Florian et Olivio, c'est leur vrai prénom, qui s'était donc fait très discret. Ils avaient besoin apparemment de cette longue pause. Écoutez à ce sujet Big Flo tout d'abord et son frère juste après. Il explique pour toi pourquoi ce silence.
Parce qu'on était, moi j'étais fatigué déjà, tout simplement. On a fait beaucoup de concerts, beaucoup de promos. On n'était pas obligé, vous me diriez, et je vous répondrai oui, c'est vrai. Mais du coup, on avait besoin de prendre du recul sur tout ça, de faire un point et de prendre un peu de temps pour nous.
Et puis, je crois qu'il était l'heure pour nous d'écrire plus, de tester plus de morceaux, d'essayer de se renouveler musicalement, de ne pas reproduire la même chose, de ne pas devenir les clichés de nous-mêmes. Donc, un peu de recul pour revenir plus fort. Ouais. On a voulu régler notre relation de frère, notre relation de collègue de travail, notre rapport au succès, notre rapport aux réseaux sociaux. Donc quand même, plein de choses se sont passées pendant cette courte pause, sous fond malheureux de Covid, avec tout ce qui s'est passé, ce qui nous a un peu bloqués et mis face à certaines réalités. Ouais.
J'ai bientôt 30 ans mais je suis encore dans Pokémon. Sur ma trottinette, j'écoute du Freeze Corleone. Lève ta main pour Sullivan qui pose sur l'album. Je suis dans PALD depuis l'époque de Winston.
Alors ce nouveau disque, Jean-François, c'est 21 titres, ce qui est beaucoup pour un CD, pour un disque, dont plusieurs duos d'ailleurs, avec notamment des rappeurs comme Leto, MC Solar, mais aussi des chanteurs comme Julien Doré ou Francis Cabrel. Eh bien ce disque, il débute par un long morceau de près de 6 minutes et c'est une sorte de journal intime.
J'écrirai toujours l'amour. Tant pis si je passe pour un utopiste, pour l'artiste imbécile heureux. Petit, je voulais être guerrier. J'ai grandi, j'ai compris que ceux qui veulent la paix sont plus courageux. C'est facile de mettre le feu à une forêt. Tellement plus facile que de la planter. Il y a 1000 façons d'avoir raison. La première, c'est d'avouer qu'on s'est trompé. Promis. Promis, je suis encore avec vous, même si tu me vois dans le carré VIP au fond de la boîte. J'ai encore en tête vos voix quand je dis nous. J'ai encore le blues le dimanche devant mes pattes. C'est faux quand je dis que tout le monde peut réussir. Enfin, c'est vrai, mais c'est faux comme dire que le cancer se soigne. Mais moi, je retiens le meilleur et j'emmerde le pire. Ouais, il y en a plein qui perdent, mais il y en a plein qui gagnent. C'est ça que je voulais dire.
Bon, les deux frères, visiblement, ont un petit peu vieilli. Ils approchent de la trentaine, ils ont gagné en maturité, ils ont pris du recul, hein, et non sur leur métier de chanteur.
Oui, c'est vrai. Ils disent avoir compris qu'ils ne pouvaient pas plaire à tout le monde, ce qui est une vérité pour chacun d'entre nous, et surtout que l'addiction des jeunes aux écrans et donc aux réseaux sociaux pouvait être néfaste. C'est un thème d'ailleurs que l'on retrouve notamment sur le titre Si j'étais pas là.
Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de story. Au début, j'avais peur que les gens m'oublient, puis j'ai redonné sa place au temps et j'ai compris que les réseaux, c'est pas si important. Je suis allé à Dubaï, du quad dans le désert. Je me suis lâché, au resto, je prenais 3 desserts. La vie d'une star de télé-réalité. Et en vrai, je crois que j'ai pas trop aimé. Au fait, je suis en couple, les filles me parlaient plus. Sur Insta, je ferme les yeux chaque fois que je vois un cul. Je joue Animal Crossing avec elle. Et dans la voiture, on chante du Alipa et Angèle. Je pourrais pas plaire à tout le monde,
non,
c'est sûr. J'ai mis du temps à l'admettre. Ceux qui m'aiment me suivent, les autres, allez vous faire mettre.
Voilà, donc les deux frères ont voulu apporter des nuances dans leur rapport aux réseaux sociaux. Des réseaux qu'ils ont pourtant beaucoup pratiqués. Et dès leur début, Big Flo.
On a essayé dans notre discours d'expliquer qu'il y a beaucoup de positifs, mais que parfois ça peut être un poison, ça peut être une énorme perte de temps, ça peut être hyper, hyper dangereux. Donc voilà, plusieurs petits moments dans l'album où on en parle, où on essaie de le dénoncer, dans le morceau « J'étais pas là », dans « Copier-coller » et plein de phrases qui, j'espère, résonneront un peu sur notre jeune public.
Devant le miroir, elle se griffe le visage, elle supporte pas de voir cette image. Elle aimerait que ce soit qu'un mirage, des ratures et plein de tâches. Mais y a quelqu'un qui les voit, une princesse qui s'ignore. Forcément, elle s'isole. Sa couleur et ses formes, son ego la déforme. La retourner l'essor. Elle veut plus faire d'efforts, rivée sur le téléphone. Toutes les autres sont belles. Défilé de reines artificielles. Il faudrait que quelqu'un lui rappelle. Quelque compara des logiciels.
Et puis il y a aussi, Edmond, sur cet album, un morceau très politique, hein, qui s'intitule « Sacré bordel ».
Un titre qui était paru déjà le 5 avril, il y a pas mal de semaines, donc il y a 2 mois, sous forme de single. Et en 5 petites minutes sur ce titre, les deux frères dont le père est argentin et la mère algérienne déclinent les sentiments ambivalents que leur inspire leur pays, la France.
Pourquoi je suis mal à l'aise devant mon propre drapeau? Pourquoi je le vois brandi uniquement à l'étranger ou chez les fachos? Longtemps qu'il a pris la poussière, le mien ne m'a pas trop servi. Pourquoi ça me gêne moins quand c'est celui de l'Argentine ou bien de l'Algérie? Je réponds, je suis français, d'un air hésitant, comme si en douter devenait évident. Peu importe le bord, peu importe le camp, on m'a dit de détester le président. Je viens du pays où il fait toujours beau, mais aussi de celui où il pleut tout le temps. Dis-moi de qui je suis le descendant, des collabos ou bien des résistants? Autant de cons que de complexes, si je pars vous allez pas me manquer, mais à l'autre bout du monde, premier réflexe. Je cherche s'il y a des Français. J'aime la...
Voilà, vous l'entendez, un titre en forme de « Je t'aime, moi non plus » en quelque sorte, à propos de la France. Sacré bordel, c'est donc ce titre. Écoutez à ce sujet Olivio, c'est-à-dire Oli.
Je pense qu'on peut être mal à l'aise face au drapeau et hyper à l'aise et hyper heureux d'être dans ce pays-là. Je crois que c'est une sorte de lettre, une lettre ouverte avec de la critique, mais qui dit critique dit amour, parce que quand on porte un regard critique sur quelque chose, ça veut dire qu'on y porte de l'affection et de l'intérêt. Et je crois que c'est ça qu'on a voulu dire dans Sacré Bordel. On a disséqué notre identité, nos origines algériennes, nos origines argentines, tous nos questionnements très générationnels aussi. Et une forme de sincérité et d'engagement dans le fait de dire que parfois on ne sait pas, qu'on est paumé au milieu de toutes ces questions. On a entendu des générations précédentes nous raconter des choses vraies, fausses, un peu perdues dans tous ces discours politiques. Et ça nous a fait du bien de coucher tout ça sur le papier.
Ça dure, amour ou haine, c'est pas une mince affaire. La police.
Alors, il n'y aura pas de méga festival cet été pour les deux frangins et pas de salle gigantesque non plus pour leur concert prévu à la rentrée en septembre.
Exactement, ils ne veulent pas entendre parler de gros festivals pour l'instant, alors qu'ils ont tout de même rempli en l'Accor Hotel Arena à Paris il y a une semaine, jour pour jour, c'est-à-dire le jour de la sortie de l'album. C'est une gigantesque salle de 20 000 personnes. Ils ont décidé de ne participer qu'à des festivals à taille humaine et de ne se produire que dans des salles petites ou moyennes pour, disent-ils, se sentir plus proches du public.
Edmond Sadaka est le dernier album des rappeurs Big Flo et Oli. Ça s'appelle Les Autres, c'est nous. Merci à vous, merci également à Marjorie. Et à vous Amélie, dans un instant, le journal, on se quitte avec Bons Élèves, Big Flo et Oli, en featuring avec MC Solar.
Merde, pourquoi ça baisse toujours? Ah, t'as augmenté le volume.
Flash, photo, je signe, autographe et contrat. Mama, je suis une star, pardon si je ne réponds pas. Flash, photo, je signe, autographe et contrat. Maman, je suis une star, pardon si je te réponds pas. Flash, photographe, autographe et puis crash. Tout le monde te lâche, oui le monde peut être trash.
Je suis un produit, moi et mes mots, que l'on consomme en chantant mes sentiments dans des morceaux, sur des albums que je vends. Je pense aux concerts, je pense aux radios, à la télé, et évidemment. Je donne ma chair, mes idéaux, et je ressens un vide en moi. Est-ce qu'on devient toujours ce qu'on dénonce? Mes fans m'appellent par mon prénom. Tic-tac, tic-tac, c'est le décompte. Ils veulent de moi toutes les réponses. Bien sûr que j'ai exagéré un peu. En vrai, je vous connais pas. Et je vois bien qu'Oli le vit mieux que moi. Que des deux, je suis le moins sympa.
Ils disent tout ça.
Le rap m'a sorti sa facture. Moi qui l'avais appelé au secours. Des milliers d'inconnus qui m'aiment. Comment tous les aimer en retour? On a beau le dire, mais dans l'absolu, pourquoi on oublie l'atterrissage? Voilà l'ironie. Je voulais être connu. Et maintenant que je le suis, je cache mon visage. Et plus on s'élève, plus on s'enlève de ce qu'on surplombe. Tout le monde veut devenir célèbre. Tous les gens célèbres voudraient être tout le monde. Alors oui, je bois pas, je fume pas. Je suis un exemple pour la génération. Mais j'adore le casino et le sexe. Et j'en parle jamais dans toutes mes chansons.
Tu vois qu'on se lâche.
Les bons élèves, premiers de la classe. Je crois que c'est pas si vrai. Enfin, je sais plus trop. Les adultes voudraient faire de nous des exemples. De nouveaux symboles caricaturaux. Mais le rap me regarde de travers. Il aimerait que je dévoile tous mes défauts. Il me défie, je mets les formes. Et il revient malgré tous mes efforts. Je suis qu'un artiste. J'écris forcément pour les gens. Je ne suis pas que mes désirs. La frontière entre ce qui me plaît vraiment et ce qui vous fera plaisir. À chaque fois je recommence pourtant. Ma vie et mes vœux, je t'ai en pâture. Oli m'a dit donne tout pour les gens. Tout ça c'est grâce à eux. Mais j'en suis pas sûr.
Big Flo et Oli avec M6 Solar pour terminer ce café gourmand de VMDN. Dans un instant, l'info. On se retrouve lundi avec la compagnie Les Jours Rouges qui présente leur version théâtrale et musicale de L'écume des jours de Boris Vian. C'est au théâtre du Lucernaire à Paris et vous m'en direz des nouvelles.
Maman, je suis une star. Pardon si je te réponds pas.
Vas-y, Oli.